La foi d'O 62. La foi Esther rendue parfaite par le signe du Messie. Le 24 janvier 2018. Brian Kozurek, pasteur. Ce soir, je voudrais aborder un autre sujet concernant notre série sur la foi qui montre la confirmation que nous avons prêché dimanche dernier dans laquelle Dieu confirme sa propre parole ou l'ainsi dit le Seigneur en accomplissant ce qu'il a dit. Ce soir, je veux montrer quelque chose qui va même au-delà de parler au nom du Seigneur. Je veux vous montrer comment la foi Esther rendue parfaite par son signe du Messie. Maintenant, nous savons que le signe du Messie n'a été donné qu'à une seule personne en cette heure, et c'était le prophète confirmé de Dieu. Aucun autre homme n'y l'avait. Car le signe du Messie Esther, le signe du Messie, qu'il Esther ici et que sa parole a été placée dans ce vase. Dieu a un ministère d'un seul homme, et la parole du Seigneur Néhémie vient qu'à cet homme dans chaque âge, et puis à partir de ce seul homme, elle va aux autres parce que cet homme a fidèlement enseigné. L'expose des sept âges de l'Église chapitre 4, l'âge de l'Église de Smyrne, page 149, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un message donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de Néhémie dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de Néhémie dire que ce qu'il avait dit. I Corinthiens 14.37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris Esther est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu Esther sortie? Ou est-ce vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur, et le réveil s'éteint. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis, en disant que même lui, Paul, Néhémie pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh! Comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Nous voyons donc que le plan de Dieu est d'envoyer un seul homme, puis d'enseigner fidèlement des hommes qui sont fidèles à écouter, à entendre et à prêter une attention soutenue à ce que ce messager doit enseigner. Remarquez à nouveau sa manière de l'exprimer, la lumière vient à travers un message donné par Dieu dans une certaine région. En cette dernière heure, il se trouve qu'à l'Esther venu un seul homme, William Branham qui se trouvait aux États-Unis. Esther c'est un message donné par Dieu, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de Néhémie dire que ce que le messager a dit. Ici, nous examinons ce messager qui enseigne fidèlement d'autres personnes qui sont fidèles à se taire et à écouter. Nous voyons donc que le plan de Dieu pour chaque âge est le même. Maintenant, si les gens veulent en débattre, nous pouvons nous asseoir et en débattre car nous avons une liste de sept messagers et nous savons comment ils sont venus à certaines jonctions du temps, que nous appelons les âges de l'Église. Et puis il y a eu des hommes proches de ce messager qui ont appris au pied de ce messager. Je peux aussi vous montrer d'autres hommes qui se sont élevés à cette époque et ces hommes Néhémie comprenaient pas ce que le messager avait apporté par la parole de Dieu, et ils sont ainsi pris leur propre voie. Et je peux également vous montrer des exemples, tout au long des âges, d'hommes qui se sont assis au pied du messager, mais ont mal acquis compris ce qu'il a dit et sont entrés dans le fanatisme. Tel est le cas de Karlstadt, qui a étudié au pied de Martin Luther, puis est rentré dans le fanatisme dès que Martin a pris le maquis, alors qu'il traduisait la Bible en allemand. Il a dû sortir de la clandestinité pour arrêter la destruction fanatique à laquelle se sont livrés certains des adeptes du message de Martin sous la conduite de Karlstadt en l'absence de Martin. Martin Luther n'a jamais établi Karlstadt pour diriger en son absence, tout comme William Branham n'a jamais dit aux gens de suivre un homme à sa place. Dieu n'a émis travail jamais de cette façon. Il laisse aux gens d'avoir le bon discernement pour suivre le Saint-Esprit, par la conduite de la colonne de feu, sa présence. Nous devons donc comprendre la différence entre le discernement spirituel et le signe du Messie, parce qu'ils sont deux choses différentes et montrent leurs fruits de deux façons différentes. Le signe du Messie, auquel frère Branham se réfère tout au long de son ministère, a été vu pour la première fois lorsque Dieu a rendu visite à Abraham sous la forme d'une chair humaine. Cet ange qui est revenu à lui, lui a parlé après avoir rassuré Abraham qu'il accomplirait la promesse qu'il avait faite à Abraham de le bénir de nombreuses semences. Sarah, la femme d'Abraham, a ri dans son cœur, et il a dénoncé son incrédulité. C'était la première fois que le signe du Messie ou le signe de la présence de Dieu a été vu dans un homme. La première fois que nous le voyons dans le Dieu invisible. C'était dans le jardin d'Éden quand Dieu a encore discerné les pensées et les intentions du cœur d'Ève, et l'a dévoilé pour lui avoir menti. Frère Branham a parlé à plusieurs reprises au sujet du signe du Messie au cours de ses 33 ans de ministère. Alors, qu'est-ce que le signe du Messie? Et comment cela parfait notre foi ou fait que notre foi atteigne la maturité et le repos? Voilà les deux questions que je souhaite aborder ce soir. Nous entendons frère Branham parler en termes de signe du Messie, ou du signe messianique. Dans l'ensemble, frère Branham mentionne ces termes pour parler du signe du Messie au moins 219 fois. Dans toutes les diverses formes où il mentionne ce signe du Messie, frère Branham est très clair de ce à quoi il se réfère, et dans presque toutes les diverses formes Branham illustre ce signe du Messie soit par le chapitre 18 de Genèse, où Dieu a révélé les pensées de Sarah, soit par l'évangile de Jean chapitre 4, où Jésus révèle les péchés de la femme au puits et elle reconnaît cette révélation comme étant le signe de Messie en Jésus, soit par Jean chapitre 1 où Jésus a vu Nathaniel sous l'arbre en train de prier. Maintenant, allons dans la Bible pour voir par nous-mêmes ces trois exemples du signe du Messie auquel se réfère frère Branham. Genèse 18.1 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Le décor restèrent ainsi planté par l'apparition du Seigneur, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Deux il leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Trois et il dit, Seigneur, or, remarquez qu'il en vit trois, mais reconnus qu'un seul d'entre eux comme étant le Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Néhémie passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Quatre permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Cinq j'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur, après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Six Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. C'était Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le prêter. 8 Il prit encore de la crème et du lait, avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. 9. Alors ils lui dirent, « Où est-ce Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai certainement vers toi selon le temps de la vie, selon le roi Jacques. » NDT. Or, remarquez ici que Dieu dit à Abraham, « Je vous ramènerai au temps de la vie » que l'on sait être parfois entre 16 et 20 ans. C'est le moment de la vie, quand nous sommes au meilleur de notre forme. Et puis après avoir promis de les rendre plus jeunes dans leur corps, il leur promet un enfant par Sarah, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. J'espère que vous avez saisi qu'ils étaient tous les deux vieux et avancés en âge, et Sarah Néhémie pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle avait dépassé la ménopause. Elle Néhémie pouvait pas physiquement avoir des enfants. 12. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est-il vieux ?» Maintenant remarquez, Sarah n'apparaît aux éclats. La Bible dit que Sarah rit en elle-même. 13. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant ? Moi qui suis vieille ?» 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé je reviendrai certainement vers toi. Selon le temps de la vie, et Sarah aura un fils. Maintenant, la plupart des gens lisent ceci et disent qu'au moment fixé je reviendrai vers toi. Et ils s'arrêtent là en espérant que quelque part sur la route, Dieu reviendra. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et c'est ça le problème avec les gens. Ils n'émilisent pas ce que Dieu a dit. Ils passent complètement à côté de ce qu'il a dit. Il a dit, « Je reviendrai vers toi. » Selon le temps de la vie, le mot hébreu Shuv Bnemi dit pas reviendrai vers toi. Comme si Dieu revenait lui-même pour apporter le fils promis. Ce mot Shuv signifie revenir en arrière. Ce qui signifie je vais te faire revenir en arrière. Selon le temps de la vie. Alléluia. Le Seigneur est le même et Néhémie change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nos corps seront changés avant d'aller recevoir le Fils promis. Tout comme Abraham et Sarah ont eu un corps changé avant qu'il n'ait mis soit prêt à recevoir le Fils promis. Écoutez ce que frère Branham dit dans son sermon Posséder la porte de l'ennemi après le test d'Im 22 mars 64 32. Eh bien, maintenant ici, observez ce qu'il a fait. Eh bien, Abraham et Sarah étaient tous deux vieux, avancés en âge, dit la Bible. Maintenant, ce n'était pas juste parce qu'à l'époque les gens vivaient plus longtemps. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. 33. Maintenant, remarquez. Immédiatement après l'apparition de cet ange, c'est ce dont nous parlons. Cet ange était Elohim, Dieu. Et il a parlé à Abraham, disant, « Je vais te visiter au temps de la vie. » Maintenant, observez. Depuis lors, ils étaient un type de l'Église. Depuis lors. 34. Maintenant, suivez. Voici ce qui arriva. Eh bien, ce n'est pas qu'il ait tout simplement raccommodé Sarah et Abraham. Il les avait ramenés à un jeune homme et une jeune femme. Eh bien, cela peut sembler étrange, mais, observez alors la suite de la parole. Et mettez cela ensemble. La parole est inspirée. Et vous devez être inspiré par la parole. Maintenant, souvenez-vous, immédiatement après cela, immédiatement après l'apparition de cet ange. 35. Je peux juste voir cela. Cette chevelure grise de Sarah, la petite grand-mère avec un châle sur les épaules et un petit chapeau contre la poussière. Elle tenait un bâton, marchant là. Moi, avoir du plaisir avec Monseigneur, qui, lui aussi, est servieux, voyez, et voilà Abraham, avec cette longue barbe, appuyé sur un bâton, car il était avancé en âge. 36 Et je vois, le lendemain matin, ses épaules commençaient à se redresser. La bosse commençait à disparaître de son dos. Les cheveux de Sarah commençaient à redevenir noirs. Ils sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Cela montrait simplement ce qu'il allait faire avec la semence royale d'Abraham. Vous voyez, lorsque nous serons changés en instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés. 15 Sarah mentit, en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Or, pourquoi Sarah n'irait-elle avoir ri si elle avait éclaté de rire? Elle riait en elle-même et tentait ainsi de se justifier en ce qu'elle réprimait l'éclat de rire en riant en elle-même. Mais c'était le même esprit d'incrédulité qu'elle Esther extérieurement ou intérieurement. C'est Esther pourquoi Jésus a dit que si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez commis adultère avec elle dans votre cœur. Dieu regarde le cœur, et Jésus a dit, n'aimez jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. 17 Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 18 Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19 Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Maintenant, l'apôtre Paul nous a dit que cette bénédiction de Dieu à Abraham et à sa postérité n'était pas pour la semence physique mais la semence spirituelle, comme nous le voyons dans les versets suivants. Romains 4.13 En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham, notre Père à tous. Galates 3.16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est-ce pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à dire, à Christ. Et si nous sommes en Christ, alors la promesse est pour nous. Or, Frère Branham parle de cette scène de Genèse que nous venons de lire et il l'associe au terme du signe du Messie comme nous le voyons dans son sermon, le deuxième sommaire 19 mars 63 248 remarqué. Faites le comptage. Or, il y en a un qui est revenu vers cette église spirituelle, l'épouse. C'était Abraham, qui n'était pas à Sodome pour commencer. Et observez ce qu'il a fait. Il n'a pas prêché, comme eux l'ont fait. Il les a enseignés, mais il a ensuite opéré un signe devant eux. Il a opéré le signe du Messie. Il avait son dos tourné à la tente, et il a dit, Abraham. 249 Maintenant, souvenez-vous, son véritable nom, quelques jours auparavant, c'était Abraham. Mais il a dit, Abraham, ou Esther ta femme et Sarah. Quelques jours auparavant, son nom était Sarahji. 250 Abraham a dit, elle Esther dans la tente, derrière toi. Et il a dit, Abraham, Je, voilà encore ce pronom personnel. Je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite. Voyez-vous qui c'était? Voyez? Un homme? Portant des vêtements couverts de poussière? Qui mangeait de la viande de veau et qui buvait du lait de vache? Et qui mangeait du pain de maïs? Certainement. Dieu, Elohim, manifesté dans la chair. 251 Il a promis que, dans les derniers jours, il se manifesterait de nouveau dans la chair. Remarquez. Abraham, ou Esther ta femme Sarah, elle Esther dans la tente, derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Et dans son sermon Jéhovah Jireh 17 novembre 55 frère Branham dit, 50 Abraham était pourtant un jeune homme. Sarah, immédiatement après cela, plus d'une année ou deux après cela, a eu le bébé qui lui avait été promis durant tout ce temps. Remarquez. Maintenant, vous direz, c'est Esther ce qu'il a fait à Sarah, mais qu'en est-il d'Abraham, même après qu'Isaac Esther mort, ou plutôt je veux dire, après que Sarah soit morte, lorsqu'Isaac était déjà un jeune homme, il était suffisamment âgé pour se marier, environ 40 ans plus tard. Eh bien, dites-vous, à cette époque-là les gens vivaient plus longtemps, frère Branham. Maintenant, une minute. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux avancés en âge. C'est vrai. Et Abraham épousa une autre femme après la mort de Sarah, une quarantaine d'années plus tard, et il a eu 7 fils. Espace vide sur la bande-n.d.e. Alléluia. C'est un autre Dieu. Il a montré à travers Abraham et Sarah ce qu'il fera pour vous et votre femme. Un de ces jours, il va vous rajeunir. Eh bien, si cela n'est pas une espérance bénie, je n'émissais pas ce que c'est Esther, frère. Lorsqu'il Esther apparut là-bas, il a pris une poignée des matières dans l'être humain Esther constitué, et l'a simplement créé par la parole. Il a dit, venez ici. Avec une autre poignée, il a mis 2 anges dedans, il Esther descendu, et il a parlé à Abraham et il l'a aussi changé en un jeune homme. Et il a prouvé ce qu'il allait faire. Alléluia. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes en route vers la promesse. Lorsque le petit Isaac naquit. Oh! Là là! Dois-je m'arrêter ici? Accordez-moi encore 5 minutes. S'il vous plaît. Le mariage et le divorce d'Im 21 février 65-151. Quand Abraham a emmené Sarah au pays des Philistins, il y avait un roi là-bas du nom d'Abimélec. Et Sarah avait 100 ans, tout juste. Mais elle avait été changée. Elle était redevenue une jeune femme et avait retrouvé sa beauté. Savez-vous cela? L'assemblée dit, Amen. -de. Très bien. Et Abimélec voulait l'avoir pour femme. Vous vous souvenez de mon message là-dessus? Abimélec voulait prendre Sarah pour femme. Il disposait probablement d'un harem. D'accord. Alors maintenant, allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean et ouvrons nos Bibles à Jean 1.44 et lisons, 44 Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. 45 Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46 Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens, et vois. 47 Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. 48 D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49 Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, Tu es Zaï le roi d'Israël. 50 Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. 51 Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Maintenant, qu'a dit un prophète confirmé au sujet du signe messianique? Il a dit que c'était connaître la pensée et les intentions même du cœur tel que décrit dans Hébreux 4.12. Dans son sermon, montre-nous le père d'Im 21 mai 61 frère Branham dit, 90 combien savent qu'ils connaissaient leurs pensées et qu'ils savaient tout à leur sujet? C'est-il vrai? Eh bien, c'était le signe du Messie. Remarquez qu'il nous dit spécifiquement que connaître les pensées et les intentions du cœur est le signe du Messie qui est Hébreux 4.12. Puis dans son sermon, convaincu, puis concerne jeudi 18 janvier 62 frère Branham dit, 134 comment ont-ils su que c'était le Messie? Comment la femme au puits a-t-elle su que c'était le Messie? Quand il lui dit qu'elle avait eu 5 maris. Comment Nathanaël a-t-il dit, tu es Zaï le Christ? Le Fils du Dieu vivant? 35 En effet. Il a dit, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Voyez-vous? C'est ainsi qu'ils ont reconnu cela. C'est cela le signe du Messie. C'est vrai. Demandez à n'importe qui. Regardez dans la Bible. C'est ce que cela est, le signe du Messie. Encore une fois, nous comprenons par le prophète de Dieu confirmé que le signe du Messie est le discernement des pensées et des intentions du cœur. Il l'a cité dans 142 endroits le signe messianique, dans 10 endroits le signe messianique et dans 63 autres endroits, il l'a appelé le signe du Messie. Si vous cochez toutes les citations du signe du Messie, les citations du signe messianique, pour un total de 219 citations, vous trouverez qu'il mentionne la femme au puits, ou Nathanaël priant sous l'arbre, ou même Elohim devant la tente parlant à Abraham de ce que pensait Sarah. Et dans les 219 citations, l'accent est mis sur le discernement des pensées et des intentions du cœur. À nouveau dans son sermon, le Dieu immuable Sem 20 janvier 62-55 est bien devenu grand. Jésus a prouvé qu'il était ce Messie pour lequel ils avaient prié. Il leur a montré son signe messianique. Il a prouvé par les signes qu'il accomplissait qu'il était le Messie. Regardez la femme au puits, quand il lui a dit ses péchés, qu'elle avait eu 5 maris. Eh bien, a-t-elle dit, Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Mais Néhémie ne savait pas qu'il l'était. Il a dit, « Je le suis. » Considérez Nathanaël, quand il est revenu avec Philippe, et qu'il est rentré dans la présence de Jésus. Et Jésus lui a dit qu'il était, d'où il venait, ce qu'il faisait. Oh là là, cela a prouvé. Il a dit, « Rabbi, tu es Zaï le Fils de Dieu. » Tu es Zaï le roi d'Israël. Oh là là, assurément. Pourquoi? Il avait donné la preuve. Or, ça c'est Hébreux 4.12 la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Or, ce n'est pas la même chose que 1 Corinthiens 12 le don du discernement des esprits, qui est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas tant un don tel que le donateur lui-même. Mais le don de 1 Corinthiens 12 est, à un autre, le don de Père et des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. 11 Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 12. Car, comme le corps est un à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, Néhémie forme qu'un seul corps, Ainsi on est stérile nous Christ. 13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 14 Ainsi le corps n'estère pas un seul membre, mais il estère formé de plusieurs membres. Tout chrétien peut avoir ce don de discerner entre un esprit divin et un mauvais esprit. Et Hébreux 4.12 n'estère pas Malachi 3.16, qui discerne ce qui estère juste et ce qui estère faux. Lisons par nous-mêmes Malachi 3.16, 16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18 Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui n'est aimé le sert pas. Encore une fois, tout chrétien rempli du Saint-Esprit de Dieu devrait être capable de discerner la justice de la fausseté. En fait, la Bible fait allusion au fait que vous pouvez vous exercer à discerner certaines choses. Hébreux 5.14 Mais la nourriture solide est stère pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est stère, exercé par l'usage à discerner ce qui est stère bien et ce qui est stère mal acquis. Maintenant, qu'est-ce ce que cela signifie exercer son jugement à discerner? Maintenant, pensez-y. Nous lisons nos Bibles avec désinvolture sans même penser à la signification de ce que nous lisons. Eh bien, de quoi parle-t-il ici? Le mot grec signifie votre perception et votre jugement. Alors Paul dit que nous pouvons exercer notre perception et notre jugement à discerner. Et remarquez comment il dit que nous le faisons. Mais la nourriture solide, en d'autres termes, un enseignement profond de la parole de Dieu Esther pour les hommes faits, Téléo, qui ont atteint la maturité, qui sont prêts pour l'adoption, pour ceux dont le jugement Esther exercé par l'usage etc. Remarquez qu'il nous dit juste avant cela au verset 12 vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13 Or, quiconque en estère au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il estère un enfant. 14 Mais la nourriture solide estère pour les hommes faits. Ce mot grec estère téléo ce qui signifie d'un âge mûr, pour ceux dont le jugement estère exercé par l'usage etc. Et nous voyons le même mot grec être encore utilisé dans 1 Corinthiens 14.20 frères. Néhémie soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des téléo, des adultes, matures prêts à être adoptés. Ainsi, il dit, quand vous vous nourrissez simplement d'un évangile de pain grillé et de lait et que vous édulcorez la parole afin de Néhémie pas offenser, il dit, vous Néhémie pourrez jamais espérer accéder à un bon discernement de la justice et de la fausseté. Vous Néhémie pouvez jamais vous attendre à accéder à la pleine maturité, être prêt pour l'adoption. Et Esther pourquoi frère Branham a enseigné à ses enfants à écouter ce que disent les ministres, qui passe à la radio et a discerné ensuite l'esprit qui se cache derrière ce qui Esther dit. Il les faisait écouter pendant 5 minutes, puis il devait lui dire quelle dénomination était derrière cette prédication. Et je pense que c'est une merveilleuse façon d'enseigner vos enfants. Montrez-leur ce que les autres croient et montrez-leur ensuite dans la Bible pourquoi ces choses sont fausses. Jésus dit foncièrement la même chose aux pharisiens dans Luc 12.56 Hypocrites. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment Néhémie discernez-vous pas ce temps-ci? En d'autres termes, Vous pouvez regarder les choses naturelles et discerner ou porter des jugements sur base de ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Mais pourquoi êtes-vous si aveugle avec vos yeux spirituels, que vous n'y pouvez pas voir ce que Dieu fait à votre époque? Matthieu 16.3, 3 Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est couvert d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous n'y pouvez discerner les signes des temps. Et quels étaient les signes des temps? Quand le signe du Messie était présenté et que Dieu agissait d'une manière si surnaturelle à travers le ministère de son Fils. Pourquoi leurs yeux spirituels étaient-ils si aveugles pour Néhémie pas pouvoir voir que personne Néhémie peut faire ce qui a été fait à moins que Dieu Néhémie soit avec lui? Remarquez, il a comparé le discernement naturel au discernement spirituel. Encore une fois dans Corinthiens 11.29. Nous entendons l'apôtre Paul nous dire que manquer de discerner correctement le corps du Seigneur n'apportera que condamnation sur nous-mêmes. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et frère Branham nous a enseigné dans son sermon Discerner le corps du Seigneur Mère, 12 août 59-19 ces chrétiens prenaient la communion, mais Néhémie vivait pas la vie. Le christianisme, c'est une expérience et une vie. Et ces chrétiens vivaient n'importe comment, faisant honte à leur profession. Et Paul a dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre dorment, ce qui signifie qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Vain est nous qui nous disons chrétiens. Nous n'avons pas le droit de prendre la communion, à moins que nous menions une vie répréhensible vis-à-vis du monde. Nous n'en avons la communion. C'est pour ceux qui vivent correctement comme un exemple du discerner le corps du Seigneur Mère 12 août 59-78 discernant le corps du Seigneur. Discernant le temps dans lequel nous vivons. Nous mourrons spirituellement si nous n'aimons le faisons pas. Et si ceci est vrai, et que le Saint-Esprit est avec nous, et que nous avons le dernier signe de la venue du Seigneur juste avant qu'il vienne. Souvenez-vous, c'était juste avant que Sodome soit brûlée, juste quelques heures avant qu'elle soit brûlée. Revenons à 1 Corinthiens 11.28 parce que je vous ai lu ce verset. Au cours des 35 dernières années, au moins une fois par mois, au moment de la communion. 28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 29 Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous n'y serions pas jugés. 32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous n'y soyons pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'y vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. L'apôtre Paul a dû faire face à une situation dans l'église primitive de la Galatie parce que les gens n'avaient pas une capacité pleinement développée à discerner ce qui était juste de ce qui était faux. Et ils se sont laissés détourner de la vérité par ces frères de Jérusalem qui sont venus et les ont détournés de la liberté qu'ils avaient en Christ pour retourner à la circoncision. Ce même apôtre Paul a dit dans Corinthiens 2.14 « Mais l'homme animal Néhémie reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il Néhémie peut les connaître, parce que c'est terre spirituellement qu'on en juge. » Ainsi, si on en juge ou discerne spirituellement, alors Néhémie faut-il pas le Saint-Esprit en nous pour connaître quand ce qui se passe est terre de Dieu ou n'est terre pas Dieu? Soit de Dieu, soit de l'homme. Ce que Paul leur disait, c'était que lorsqu'il est venu leur enseigner la révélation de Jésus-Christ, ils se sont réjouis, mais quand il a commencé à discipliner l'Église sur de mauvaises activités qui se déroulaient parmi certains membres, ils se sont vraiment mis en colère. Nous voyons donc qu'il doit y avoir une certaine quantité de discernement dans chaque croyant et tout dépend de la quantité de la parole qu'ils ont et de la faculté d'exercer cette parole. Mais quand frère Branham parle de discerner les pensées et les intentions du cœur, seul Dieu lui-même qui estère celui qui oint, le Christ, le Messie lui-même, estère capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Dans Jérémie 17.10 nous lisons, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Psaume 44.22 Dieu n'aimé le saura-t-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Psaume 139.23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Acte 15.8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Romains 8.27 Et celui qui sonde les cœurs, connaît quelle estère la pensée de l'Esprit, parce que c'est estère selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Hébreux 4.12 Car la parole de Dieu estère vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13 Nue créature n'estère cachée devant lui, mais tout estère à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Mar 27 avril 65 98 à bien, elle, n'était pas comme ses sacrificateurs, qui disaient, il a un démon. Esther un diseur de bonne aventure ou quelque chose de ce genre. Elle s'est retournée et a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Or, nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. L'Église n'est pas habituée à une telle chose. Mais, nous voyons, je vois que tu es un prophète. Eh bien, je sais que nous attendons le Messie. Et quand le Messie viendra, c'est-à-dire ce qu'il fera. 99 Or, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Si c'était là le signe de l'onction du Messie autrefois pour les Samaritains et pour les Juifs, eh bien, cela n'a jamais été accompli devant les gentils. Nulle part dans la Bible Jésus n'a aimé la fête devant les gentils. Ils ont attendu le Messie pendant 4000 ans. Nous avons eu aussi 2000 ans, avec leur instruction, pour attendre le Messie. Or, si c'est par cela qu'ils s'étaient identifiés juste avant la fin de leur jour, il doit s'identifier par cela vis-à-vis de nous. En effet, il a promis que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau au jour où le monde deviendrait de nouveau comme Sodome. Et tout le monde sait que nous en sommes là. Voyez? Bon. D'accord. Lisons Jean 4 où frère Branham parle du signe du Messie. Jean 4.5, 5 Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Si cela se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'est une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 8 Car ce disciple était allé à la ville pour acheter des vivres. 9 La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. 10 Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui estère celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 11 Seigneur, lui dit la femme, Tu n'as rien pour puiser? Et le puits est-il profond? D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même? Ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13 Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 14 Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 15 La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je n'aie mis, vienne plus puiser ici. 16 Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari, et viens ici. 17 La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. 18 Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. 20 Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est mis sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. 22 Vous adorez ce que vous n'avez mis connaissez pas, nous, adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 25 La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. 27 Là-dessous arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun ennemi dit, que demandes-tu? Ou, de quoi parles-tu avec elle? 28 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, 29 Venez voir un homme, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce serait-ce point le Christ? 30 Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Mère 12 février 6449 Eh bien, 7. Dame Simester inconnu. Maintenant, qui que ce soit qui s'occupe de cela, le technicien, surveillez ce micro. Très bien. Maintenant, je vais parler à cette dame. Voici se répéter Saint Jean 4. Là où Jésus parlait à une femme et lui avait dit quel était son problème. Et elle a cru que c'était le signe du Messie. Si c'était le signe du Messie à l'époque, c'est toujours le signe du Messie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Monsieur, nous voudrions voir Jésus mardi 12 novembre 6368. Observez cette petite femme. Vous savez, elle pourrait enseigner l'Évangile à 90% de membres du clergé d'aujourd'hui. Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi ces sacrificateurs se sont-ils tenus là et l'ont-ils taxé de Belzébul? Alors que leur Bible même disait que c'était bien ce qu'ils feraient? Esther se juste? Et voici une prostituée qui se tient là? Une femme de mauvaise réputation? Et quand il a dit ça à cette femme? Elle n'a jamais dit, eh bien, tu es à Belzébul. 169 Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Oui. Oui. Maintenant, écoutez sa déclaration. Nous voyons. Je vois que tu es un prophète. Nous savons que, lorsque le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ, nous attendons sa venue. Quand il viendra, il nous annoncera ces choses. C'est ce qu'il va faire. 170 C'était là le signe du Messie hier. C'est cela le signe du Messie aujourd'hui, le même. Voyez-vous? Maintenant, je veux que vous prêtiez une attention soutenue à ce que frère Branham dit ici parce qu'il nous dit que le signe du merci Néhémie faillit pas même si vous pensez que c'est Esther le cas. Frère Collins était présent lors d'une réunion au Kentucky et frère Branham a appelé une femme et lui a dit où elle habitait. Et deux de ses amis, qui étaient là, ont dit qu'il avait tort. Il les a entendus parler alors qu'ils sortaient. Alors Esther est allée vers la femme qui a été guérie et lui a demandé où elle habitait. Et elle lui a dit que c'était l'adresse que frère Branham avait mentionnée. Puis il a dit, « Mais vos amis disent que vous habitez à telle adresse ?» Et elle a dit, « Eh bien, j'ai déménagé de là la semaine dernière. La parole de Dieu Néhémie peut pas faillir. Et je me fiche que des incroyants viennent dire qu'il a fait des erreurs. La parole de Dieu Néhémie faillit jamais. Vous en avez juste une mauvaise compréhension. » Un témoignage en Mergeux 26 juillet 62-46 Mathieu a dit, « Oui, je m'en souviens. C'est Esther lui qui a écrit cela. Vous savez. Oh, oui. Je m'en souviens. Mon cœur m'avait manqué. Je m'étais dit, oh, là là. Oui, oui. Voilà notre maître pour une fois en erreur. Voyez, en effet, il a dit à la femme qu'elle avait un mari, qu'elle aille chercher son mari, et cette dernière avait répliqué, je n'ai point de mari. Et puis, il a dit en retour, tu as dit vrai. Nous étions tous intrigués. Le voilà dire, va, appelle ton mari. Elle a dit, je n'ai point de mari. Et lui a dit, c'est Esther vrai. Écoutez. Va. Appelle ton mari. Je n'ai point de mari. Tu as dit vrai. Bon. Oh. Nous étions tous étonnés. Et nos cœurs battaient. Nous nous sommes relevés par-dessus le buisson derrière lui pour voir ce qu'il allait faire après. Oh. Il était en erreur. Elle avait dit, je n'ai point de mari. Et cependant, nous croyons que c'est à lui le Messie. Comment ce glorieux signe messianique a-t-il pu échouer? Et nous savions qu'il était le Messie, car il accomplissait le signe du Messie. Par conséquent, nous, le Messie, c'est Esther Dieu, loin. Et loin, c'est Esther la parole. Et la parole a été manifestée. Voyez? Nous savions qu'il était le Messie. Et il était là. Cela tapait juste chaque fois sauf cette fois-là. Mais alors, cela avait échoué, car il avait dit à la jeune femme, « Va, appelle ton mari. » Et celle-ci avait dit, « Je n'en ai point. » Il a dit, « Tu as dit vrai. Tu as dit vrai, car tu en as eu cinq. » Et celui avec qui tu vis maintenant n'est-ce pas ton mari? Oh! Et nous avons vu ce que cette femme a dit. Elle s'est retournée, le regard perplexe. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, cela, à vrai dire, dans la version King James, c'est Malachi qui traduit. Il n'y a pas de problème. C'est Esther bien comme ça. Mais si vous suivez les notes en marge là-dessus, et que vous parcourez la version originelle grecque, beaucoup d'érudits ici ont lu cela. Il Esther dit, tu es Aïe ce prophète-là. Voyez, c'est Esther ça dans les notes en marge. Tu es Aïe ce prophète-là. Je vois que tu es Aïe ce prophète-là. Eh bien, nous savons que quand le Messie sera venu, celui qu'on appelle Christ, ce prophète-là, Messie, Christ, tout, la même personne, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Et cette femme Esther entrée dans la ville en courant, elle s'Esther mise à raconter à tous les hommes, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, suivez donc, m'a dit ce que j'ai fait. Néhémie serait-ce point le Messie même? Et vous savez, nous sommes tous entrés dans la ville pour découvrir ce qui est arrivé. Et tous les hommes de cette ville avaient cru le témoignage de la femme. Nous voudrions voir Jésus Mère 4 juillet 6235 remarqué. Maintenant, je vais enfoncer ceci, parce que je dois partir. Observez la différence entre cette femme, qui se trouvait dans cette condition et ses prédicateurs hautement cultivés. Cette femme a dit, « Seigneur, je vois que tu es aïe, prophète. » 136 Les sacrificateurs et les érudits ont dit, « Tu es aïe Béalzébul, un démon, un diseur de bonne aventure. » 137 Cette femme a dit, « Seigneur, je vois que tu es aïe prophète. » Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous annoncera ces choses. 138 Si c'était là le signe du Messie hier, et qu'il restait le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela doit être le même. 139 Elle a dit, nous savons que le Messie, celui qui restait appelé Christ, loin, lorsqu'il sera venu, il nous annoncera ces choses. Mais toi, qu'es-tu ? 140 Il a dit, je le suis, moi qui te parle. C'était suffisant. Elle a vu la chose. Or, écoutez cette citation ici dans la Persévérance d'hymne 18 février 62, quand frère Branham fait allusion au signe du Messie. Il dit, 286 Eh bien, si c'était là le signe du Messie pour les Juifs, pour les Samaritains, Néhémie serait-ce pas le signe du Messie pour les gens des nations? Néhémie serait-ce pas le Messie de jadis? Si l'Esther ressuscité d'entre les morts et qu'il vit dans son église, se manifestant au travers d'elle, Néhémie ferait-il pas les mêmes œuvres, comme il a promis de le faire? Pour conclure, nous lisons dans Hébreux 4.12 car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13 Nue créature n'est-elle cachée devant lui, mais toute Esther est nue et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui Néhémie puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.